Bonjour, c'est encore moi. J'ai une autre devinette pour vous. Je suis un nombre à 5 chiffres. J'ai 3258 dizaines.
Caroline, je suis sourde. Tu peux répéter, s'il te plaît?
D'accord, Jérémia. J'ai 3258 dizaines. Le chiffre des unités est le double de celui des milliers.
Caroline, répète, j'ai une oreille bouchée.
Le chiffre des unités est le double de celui des milliers. Qui suis-je? Bon courage à tous!
J'espère que nos devinettes vous ont plu.
N'hésitez pas à nous envoyer vos solutions.
On dit au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Radio Cartable.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je salue et remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Marie Cizin et à son nouveau livre 10 Villa Cagliardini, publié aux éditions Arléa. Marie Cizin vit entre la Bretagne et Paris. Elle est aussi peintre et reste très attachée à la mémoire, à la présence et j'allais dire à l'intelligence des lieux. Ici, elle nous relate son attachement à ce qui fut la matrice de son enfance, cet appartement situé à Paris dans le 19e arrondissement. Porte des Lilas. Ce récit fait écho à d'autres récits publiés par Marie Cizin. Je pense notamment à La Maison de Bretagne ou même à ce recueil de nouvelles publié en 2023, Les petits personnages, où la petite histoire rejoignait la grande histoire. Marie Cizin est un écrivain accompli et c'est un bonheur de lire cette œuvre de la maturité. Son univers pictural et romanesque puise son inspiration au creux de cette lumière si particulière que le temps donne parfois à nos souvenirs. Mais je laisse à l'auteur le soin de vous en dire un peu plus sur ses voyages intérieurs. Marie Cizin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier un récit assez passionnant aux éditions Arléa, 10 Villa Cagliardini. C'est un récit, ça pourrait être un roman, mais vous avez eu l'honnêteté d'ailleurs d'indiquer ce mot récit, parce que finalement c'est assez rare. Maintenant, on fait un petit peu le méli-mélo entre fiction, réalité, et beaucoup d'auteurs. Et là, c'est vraiment un récit qui est d'ailleurs très émouvant. C'est un choix de votre part ou de votre éditeur?
Alors, c'était très difficile. D'emblée, j'ai dit à mon éditeur, c'est pas un roman, c'est un récit tout à fait authentique, tout est vrai. Et alors, on a hésité, est-ce qu'on va mettre récit? Et puis, les réactions des lecteurs m'ont éclairé. Tout le monde parle de mon roman. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme un roman. Il y a des chapitres, il y a un certain rythme, il y a un certain suspense, étant donné qu'on se demande comment ça va tourner pour cette petite fille et pour sa famille. Donc, on le lit comme un roman. Donc, très hypocritement, nous avons joué le jeu, mon illettrice et moi. On n'a pas mis récit, on n'a pas mis roman, et chacun choisit ce qu'il veut. Mais il faut savoir que tout est vrai de A à Z.
Oui, tout est vrai, c'est ce qui fait, Marie Cizin, l'émotion qu'on a à vous lire, puisqu'on vous retrouve enfant. Alors, votre récit commence par une citation d'une phrase de Marguerite Duras, de La vie matérielle. « Les enfants ne regardent pas les maisons, ils ne regardent pas plus que les parois de chair qui les enferment lorsqu'ils ne voient pas encore, mais ils les connaissent. C'est quand ils quittent la maison qu'ils la regardent. » Donc, c'est un regard a posteriori, c'est un regard dans le rétroviseur, on pourrait dire. Est-ce que Marguerite Duras est un écrivain qui a compté pour vous, Marie Cizin?
Pour moi, c'était un point de départ. D'abord, c'est en lisant Marguerite Duras que j'ai osé écrire. Parce que j'étais prof de lettres et un peu compassée dans cette fonction, peut-être. Et quand j'ai essayé d'écrire comme ça, pour moi. Et le résultat, c'était une espèce d'amalgame des grands auteurs que j'avais adoré, des grands classiques, que ce soit Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand. Je faisais du classique ridicule. Ça sonnait faux. Et puis, en lisant Marguerite Duras, je me suis dit, mais il faut écrire comme on pense. Et comme on parle, et alors c'est venu d'un coup, et mon premier livre, Le père de la petite, c'est l'effet de ce, tout d'un coup, de cette découverte que je dois à Marguerite Duras.
Alors c'est vrai, mais par contre, Marie Cizin, je dirais que Marguerite Duras joue beaucoup, et il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, elle écrivait d'oreille, je dirais que elle s'écoutait presque, hein. Est-ce que vous, je trouve qu'il y a, une certaine sobriété dans le style?
Alors, j'ai entendu, moi, le terme que vous avez employé, s'écouter. Alors, je m'écoute, j'espère au sens bon du terme. C'est-à-dire, et maintenant, en tout cas, je pense que j'ai un peu appris à écrire au cours de ces années, parce que vraiment au début c'était je sais pas, ça n'avait pas trop de forme encore. S'écouter, pour moi, ça veut dire entendre la musique de la phrase. Alors là, je pense que l'expression est bonne. Maintenant, s'écouter au sens petit, je pense tout d'un coup à ma mère, qui était une femme tout à fait extraordinaire. Et alors, un jour, elle m'a dit, elle m'avait entendu parler à la radio, je sais pas quoi. Elle m'a dit, ma chérie, tu crois pas que tu t'écoutes un peu? Et j'avais trouvé ça extraordinaire. C'est vrai qu'on a peut-être tendance, quand ça part bien, quand on a se laissé emporter. Bon, j'espère que je le fais pas trop. Mais en revanche, écouter le son de mes phrases, c'est un travail. Alors, je le fais même. J'ai découvert sur mon ordinateur un petit gadget qui est extraordinaire, qui permet d'entendre le texte qu'on vient d'écrire. Alors, on appuie sur un bouton et ça part. Alors, une révélation, parce que soi-même, quand on écoute, je parle toute seule quand j'écris, ça suffit pas. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Et là, la moindre fêlure, la petite faute ou l'intonation qui colle pas, on rectifie.
On rectifie. Alors, quel est le point de départ, Marie Cizin, de votre récit? Est-ce que, je sais que l'esprit des lieux est un peu le leitmotiv de votre œuvre. Vous êtes sensible aux lieux. Vous avez parlé de la Bretagne. Vous êtes sensible aux maisons. Quel était le point de départ pour ce récit?
Alors, pour ce récit, c'est une sorte de mise au point. On m'a dit, et c'est vrai, que dans Le père de la petite, dans Éclat d'enfance, j'ai parlé de mon enfance, de ce retour de captivité de mon père, etc. Mais avec les années, en vieillissant, en changeant, je crois que j'ai eu un autre regard. C'est-à-dire que ce que je cherchais désespérément dans Le père de la petite, c'était retrouver mon père. Et puis, il y a eu un regard qui s'est décanté. Je me suis aperçue que tout n'était pas rose et que même tout était bien pire que ce que j'avais pu même imaginer. Donc j'y suis allée, je me suis dit, bon, on va quand même, sans tabou, raconter l'histoire avec autant d'honnêteté, d'objectivité que possible. Et c'était périlleux, c'était difficile. Moi, je me rappelle l'émotion dans laquelle j'étais en écrivant Le Père de la Petite, au souvenir de mon père. Et quand je raconte que dans le train, un jour, un inconnu tient la barre d'appui des voyageurs, et je remarque qu'il a des taches de rousseur sur les mains et sur les bras, comme mon père. Et tout d'un coup, j'étais tout émue. Je ne le suis plus aujourd'hui.
Donc le temps a passé, l'écriture permet de...
Oui, l'écriture permet une mise au point que je crois honnête. Et alors, je crois que j'ai été aussi... je suis capable d'écrire maintenant sur bien des sujets, ce que je suis en train d'écrire maintenant, par exemple... C'était quelque chose que jamais j'aurais pensé avoir le courage de... Et alors, il y a eu un mot de mon éditrice que j'avais trouvé extraordinaire. Justement, quand j'étais en train d'écrire Villa Gagliardini, je touche à des sujets, à des points un peu délicats de l'histoire familiale, et en particulier de l'histoire de maman. Et je me disais, je pourrais jamais écrire ça, c'est pas possible, c'est trop gênant. Et alors, mon éditrice, je lui fais confidence de ma gêne, et il me dit, mais enfin Marie, vous êtes une grande fille à présent. C'était génial.
Alors aussi, ce qui est aussi dans votre livre, je parlais de musicalité tout à l'heure, il y a la présence du dit et du non-dit, je trouve. Vous écrivez, Marie Cizin, il est mon enfant, c'est quelque chose de plus comme un secret, une empreinte génétique, une deuxième peau inaltérable. On sent toujours qu'il y a à la fois la nécessité de dire, la nécessité de pas trop en dire, et la nécessité de se taire parfois pour laisser le silence, chacun son propre silence.
Alors, merci de dire ça. Effectivement, quand on parle de ces points délicats que j'osais à peine aborder, etc., j'ai dit ce qui était suffisant pour qu'on comprenne, mais assez explicite pour ne pas gêner la pudeur. Et je crois que chaque lecteur, moi je vois par les réactions des gens que je connais, au début, surtout quand c'était des gens, des amis, des proches, je me disais, comment est-ce qu'ils vont réagir, ça va peut-être les mettre affreusement mal à l'aise. Et ben, pas du tout, c'est passé comme une lettre à la poste, ils ont compris. Et je pense que pour des inconnus, il y a un phénomène qui est très curieux, c'est que les gens qui ont vécu des choses difficiles, quand on leur tend la perche, ils la saisissent et ils comprennent que c'est aussi leur histoire.
C'est un petit peu ce qui m'est arrivé en vous lisant, puisque je pense que beaucoup d'enfants du divorce se reconnaîtront, j'appelle les enfants du divorce, c'est-à-dire ce moment où il faut reconstruire sa vie, généralement on reste avec sa mère, hein, ou un des deux parents, et il ne reste plus rien qu'un appartement quasiment vide, où il y a très peu de choses, c'est vraiment l'art du peu, c'est ce qui vous est arrivé avec votre mère, qui vous a élevé avec votre frère, assez seul, enfin, au départ, elle était mariée, puis après, il y a la séparation, et vous montrez bien, je trouve, ce passage à témoin aussi, avec pour témoin d'ailleurs l'appartement. Et vous parlez par exemple de la cuisine, hein, qui est, hein, c'est cuisine, lieu des métamorphoses, univers tour à tour merveilleux et terrible. Donc chaque pièce, du coup, reprend son rôle auprès de l'enfant que vous étiez alors.
Et puis, ça a quelque chose de miraculeux, le lieu, justement, comme vous venez de le dire, la découverte de la solitude, de l'abandon, tout d'un coup, les choses s'effacent. Et alors, il reste les murs, il reste les choses, il reste la cuisine, il reste l'appartement gris. Alors, à un moment donné, j'écris, en parlant de mon petit frère et de moi qui étions... on est attachés à cet endroit... Qu'est-ce qu'il avait donc cet appartement gris pour nous charmer à ce point ? Et je dis, c'était ce parfum de liberté et de mélancolie peut-être qui était très très prenant. Et alors le lien extrême que j'ai eu toujours avec mon frère qui est mort maintenant, c'était ça. On avait une complicité extraordinaire, outre aussi comment dire, quelque chose de génétique, on se ressemblait beaucoup, et il y avait tout un héritage de la vieille famille aussi qui était là, histoire de famille absolument invraisemblable, mais dont nous étions les héritiers, puisque mes parents étaient cousins, donc on était extraordinairement liés par le sang.
Et lié par le sang, et puis cette histoire, bon voilà, de séparation progresse, enfin ça se fait pas d'un coup non plus, hein. Vous montrez ce tournant qui se fait entre vos parents, puis il y a la guerre aussi, etc. Les objets, le rôle des objets dans votre œuvre et dans cette histoire, elle me parle d'objets, et ces objets magiquement ce sont dès lors plus des choses, mais qui se mettent à exister comme des personnes. Donc chaque objet, c'est un interlocuteur pour la petite fille que vous étiez alors, Marie Cizin.
Mais ça, c'est grâce à ma mère, parce que c'était une femme qui avait un tempérament artistique extraordinaire. Elle aurait voulu être peintre, elle n'a pas été, elle a été dessinatrice de mode, bon. Mais elle avait une imagination, ces petites histoires qu'elle nous racontait à propos des objets, c'était extraordinaire, parce que ça nous ça m'apprenait à voir justement derrière les apparences des choses une âme, hein, quelque chose d'autre. Je pense que je n'aurais pas écrit, je n'aurais pas eu le goût d'écrire s'il n'y avait pas eu cette imagination de ma mère et cette attention à l'invisible.
Et votre mère, c'est donc le personnage central, hein, de ce
oui.
Récit. Hein,
vraiment.
Et elle vous dit, d'ailleurs, elle dit de toute façon, vous écrivez, de toute façon, à cette époque, le bonheur semé par ma mère est partout, il est de chaque instant. Donc on sent que c'est comme une essence de parfum maternel qui est là, qui imprègne ces lieux et que vous retrouvez par l'écriture, cette chose indéfinissable de la présence de votre mère.
Alors évidemment, c'est quelque chose d'autant plus frappant que ma mère est morte. Elle est morte en 2011, ça fait donc pas mal de temps. Mais j'ai l'impression, d'abord je voudrais qu'elle sache ce que j'ai écrit, parce que c'est vraiment lui rendre hommage complètement, la faire revivre, lui donner... J'allais employer un mot fort, mais une espèce de grandeur, parce que c'était vraiment une femme qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu la chance de se réaliser, mais qui avait une étoffe en elle extraordinaire. D'ailleurs, toutes les personnes qui l'approchaient l'aimaient, parce qu'elle avait une sorte de charisme et de bonté. Absolument extraordinaire. Donc ça, je voudrais qu'elle le sache et que ça soit reconnu.
C'est une sorte de lettre à...
Ah, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que tout en écrivant mon livre, je ressentais cette émotion de revivre des scènes. La mémoire est une chose étrange, parce que on croit l'avoir perdue pour certains détails, et puis elle revient. Des détails tout à fait simples, par exemple le moment du déménagement, quand ma mère, le camion du déménageur nous attendait, ma mère était déjà, elle me dit, mais enfin, dépêche-toi, moi j'arrivais pas à m'arracher à l'appartement, et en passant, elle m'embrasse. J'avais oublié. Et puis c'est revenu, c'était comme une... un signe dit, je comprends ce que tu éprouves, mais viens.
Vous dressez un portrait de votre mère en filigrane, on pourrait dire, et aussi le portrait d'une femme, c'est le portrait aussi d'une femme de cette génération-là qui a voulu être libre, qui a connu le divorce dans des années où c'était vraiment pas répandu du tout. Et vous la décrivez aussi dans toute sa perplexité, j'allais dire. Il y a plein de nuances dans ce récit.
Alors, en effet, personnalité double, j'ai essayé de le faire apercevoir, mais je me suis aperçue après qu'on oublie toujours, quand on a terminé un livre, on se dit « Oh, j'aurais dû dire ça ». Il y avait à la fois ce côté foncièrement religieux. Elle était croyante, elle qui était protestante, qui avait été convertie au catholicisme par son mariage, elle était mystique. Même ça lui a joué de très mauvais tours parce que son déséquilibre nerveux, c'était évidemment était entré dans la brèche de la religion terriblement. Mais cette religiosité, elle allait à la messe et puis elle, je sais pas si elle priait. Je crois que c'était une prière toute intérieure parce que jamais elle n'a été confite dans les prières traditionnelles. Je crois que ça lui passait par-dessus la tête. En tout cas, je vous salue Marie, elle a jamais marché. Mais elle était très croyante. À côté de ça, elle était très libre.
Voilà.
Très libre. Et alors, il y a mille exemples de sa vie qui le montre. Et je crois qu'elle revendiquait ça, cette double appartenance. Alors c'est très amusant parce que le hasard a fait qu'elle rencontre les circonstances ont fait qu'elle rencontre les parents d'une petite amie de lycée à moi, que j'appelle Jeanne dans le livre. Et ces gens-là étaient vraiment des dévots, presque au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire vraiment de l'Église. Et puis, des gens tout à fait comme il faut. Maman n'était pas une dame comme il faut.
Non.
Et alors, c'était ça qui était ravissant, mais sa sincérité faisait que ces gens l'ont adoptée tout de suite et acceptée comme normale sa liberté de vie.
Alors, une liberté de vie, et puis elle vous fait découvrir la lecture, votre mère. Elle m'a dit que les livres, c'était sacré. Ce mot, je ne le connaissais pas, mais devant son émotion, je l'ai tout de suite compris. Donc, il y a des... Elle vous transmet petit à petit le sens des objets, le sens de l'espace. Elle a fait intéressée par le côté esthétique des choses. Et la lecture, c'est une émancipation de soi, Marie Cizin.
Ah oui, alors moi la lecture au début, j'aimais les livres par goût physique. La preuve c'est que je les crayonnais, mais je ne savais pas ce que ça, je savais pas encore lire, c'est quand j'avais 3 ans. Hein, bon. Et maman m'a inculqué le respect justement d'aller et m'a fait comprendre que c'est ce que je considérais comme des gribouillis. Ça pouvait raconter une histoire. Et que, à ce moment-là, il fallait que j'aie le code et que j'apprenne à lire. Et alors là, je m'y suis mise, évidemment, avec délectation. Mais les premières lectures, c'était des lectures de hasard. Je crois que maman, ce qu'elle n'avait pas le temps, bien ce qu'elle me laissait la liberté de, c'était un peu n'importe quoi, puisque l'une de mes premières lectures vraiment passionnées, ça a été les lettres de Madame de Sévigné, quand j'étais vraiment très petite, hein, j'avais 5 ans, et je savais lire bien, mais tout le contexte, évidemment, m'échappait, je comprenais l'émotion. Et l'émotion de Madame de Sévigné racontant la mort de Vatel, oh, je comprenais, je trouvais ça vraiment fantastique. Alors je m'escrimais à mimer la mort de Vatel. Je me mettais devant la glace et puis ou devant une porte et puis je me disais voilà, je mets l'épée comme ça puis je me tue. Voilà. C'était vraiment...
Voilà ce que vous écrivez, Marie Cizin. Si j'apprends à lire, je pourrais me raconter des histoires toute seule. Elle me montre une ligne du livre et la lit tout haut. Je regarde les caractères noirs intensément et répète la phrase de mémoire. Mais elle rit et dit ce n'est pas si simple. Il y a tant de façons dont les mots se créent, s'ajustent les uns aux autres. Est-ce que quand vous... Voilà, c'est... La première rencontre avec le livre, votre mère est là, elle lit un petit peu différemment de vous, vous serez aussi une lectrice différente. Mais c'est tout ce chemin vers la connaissance de soi qui est aussi le récit de ce livre.
Ah, oui, et puis évidemment, les lectures, on progresse, on découvre de livre en livre des choses différentes. Alors, les choses de la vie, il y avait les mamans aimaient beaucoup Colette et Mauriac. Bon, et alors très vite, j'avais épuisé, alors là, c'est un peu plus tard, hein, mais disons à 12 ans, j'avais vraiment lu tout ce qu'il y avait à lire comme Mauriac et comme Colette à la maison. Il n'y avait pas encore tout parce que d'abord on n'avait pas beaucoup d'argent et maman ne pouvait pas aller acheter les choses qu'on trouvait en librairie. Bon, mais ça a été tout un cheminement. Alors je me souviens très bien, ça c'est, j'en parle pas dans le livre, mais j'avais une idée très nette de ce que pouvait être un écrivain et un roman réussi. Alors elle lisait aussi Vandermeersch. Bon, après je trouvais ça très discutable, hein, mais voilà. Et alors j'avais mon idée et je corrigeais dans ma tête Mauriac en disant, ça c'est quand j'avais 12-13 ans, je dis, oh oui, mais enfin là c'est pas bon, il aurait dû dire ça, il aurait dû faire ça, etc. C'était incroyable, j'avais l'idée de ce que pouvait être, à mon sens, un roman.
Et oui, et alors il y a l'heure du repas, et ça c'est là, l'heure du repas, c'est une heure décisive, c'est là où il y a aussi les conflits familiaux, bien évidemment, mais c'est là où vous créez aussi des histoires. De chaque côté de l'assiette, il y a les couverts, ces idiots de couverts familiers, qui soudain, doués de parole, deviennent des personnages. À droite de l'assiette, Monsieur Couteau et Madame Cuillère, et de l'autre côté, Madame Fourchette, qui s'ennuie toute seule et qui voudrait bien que Monsieur Couteau la rejoigne, et ça arrive, heureusement, quand la soupe est avalée. Donc, on sent chez vous cette volonté de ressusciter le langage de l'enfance, l'animé, l'inanimé des objets.
Mais c'était le langage de ma mère, hein, Monsieur Couteau, etc. Bon, ça. Alors, une de mes amies me disait, ah, tu sais, l'histoire des couverts, ça me hante. Hein, moi, j'y pense maintenant. Chaque fois que je vois les couverts, je raconte l'histoire. Mais je me suis aperçue, déjà en écrivant cette histoire, que cette histoire, elle est quand même hardie. Qu'est-ce que raconte maman là-dedans? Une histoire d'adultère.
Mais oui, en plus.
C'est dingue. Et alors, moi, ça m'enchantait, mais je trouvais ça vraiment très bien. Et puis, alors, cette désinvolture, la petite fille qui dit, oui, les enfants, c'est les enfants de qui? De quelle dame? Et maman dit, oh, aucune importance, hein, c'est les enfants. Et ça, c'était aussi ma mère, c'est-à-dire le culte absolument dominant de l'enfance, les petits enfants. Ça explique justement le point litigieux, enfin litigieux entre guillemets, de cette naissance de la petite sœur qui reste mystérieuse. Il y avait un besoin d'enfanter chez ma mère extraordinaire. C'est-à-dire que là, elle s'est arrogé le droit d'avoir un enfant. Son mari l'avait quitté. Bon. Eh bien, on s'arrangera sans. Je trouve ça absolument. C'est vraiment très moderne, ça. Mmh. Ça montre un courage aussi. Alors, je n'ai pas raconté non plus les remontrances de ma tante, la vieille tante, qui était affolée par tout ce qui se passait dans cette maison. Et il y avait aussi une cousine anglaise. Il y a une branche anglaise de la famille. On a vu débarquer une anglaise qui était charmante d'ailleurs, qui était un peu plus âgée que ma mère. Et alors, elle faisait la leçon à un moment. Elle disait, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas penser à tes enfants, etc. C'est-à-dire moi et mon frère. Et maman disait, non, elle a le droit. Elle avait le droit.
Elle avait le droit, elle choisit sa vie, votre mère.
Oui. Oui, oui. Je crois que si au départ, peut-être qu'il y avait des choses pas choisies, après, elle savait assumer. Assumer, et c'est la même détermination qui fait que, quand elle a décidé, moi qui avais été à l'école des sœurs, malheureuses comme tout, devant l'injustice sociale, devant toutes sortes de choses qui me révoltaient, puis la bêtise, faut bien dire la bêtise, hein, qui régnait là, quand ma mère dit, bon, écoutez, malheureuse, là, tu vas aller à l'école communale. Et et d'autorité, alors que c'était vraiment le contraire de ce qu'aurait voulu mon père. C'était, là, elle était complètement... elle assumait sa liberté. Mmh. Et puis ça s'est bien passé, parce que j'ai été vraiment comme une reine. Comme une reine. L'école, ça a été... ça, il faut... J'espère que c'est une des choses qui ressortent de ce livre... l'épanouissement que c'est, et je parle de l'école communale, c'est-à-dire le brassage d'enfants très, très différents. Mmh. Les uns avaient un peu plus d'argent que les autres, d'autres vraiment beaucoup moins. Il y avait des couleurs différentes. Hein. Mais tout ça faisait une classe. Et c'était beau, c'était bien... ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Et j'ai, en particulier à l'école communale, au lycée, il y avait aussi un brassage, mais moins évident. Mmh. Je sais pas pourquoi je suis restée fixée dans cette espèce de bonheur, de découverte du mélange social et racial de l'école communale.
Bon, on va faire une petite pause musicale, Marie Cizin, et nous reprenons notre conversation. Marie Cizin, nous parlons de votre livre 10 Villa Gagliardini qui vient de paraître aux éditions Arléa, avec d'ailleurs une très belle, on voit sur le bandeau de couverture, une nature morte avec des livres et des fleurs. Les livres, les fleurs,
c'est Félix Vallotton. Ben, oui, Félix Vallotton, c'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est à la fois d'une certaine façon très classique, mais en même temps d'une modernité, d'une force dans l'imagination qu'il projette sur des choses réelles que j'adore.
Alors l'appartement, cet appartement qui est comme une île, comme un refuge, est-ce que c'est un second corps qu'il faut apprivoiser? C'est comme le prolongement du corps de votre mère. Moi aussi, je suis ancrée avec ma mère dans un appartement qui fait corps avec moi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette reconquête de l'espace intime.
Alors, c'est le mot, hein, reconquête de l'espace et besoin d'agrandir. De changer la vie en quelque sorte. Alors cet appartement minuscule où finalement on était entassé avec trois enfants et une adulte, c'était presque invivable. Et à ce moment-là, je me suis battue vraiment pour en faire un lieu qui soit plus agréable. D'abord, à ce moment-là, ma mère travaillait, donc on avait un peu plus d'argent. Je l'avais convaincue de changer, d'acheter des meubles, des lits qui se déplient, etc. Il y avait un peu plus d'espace. Et puis, je rêvais de conquérir plus d'espace. Alors j'ai insisté sur un épisode qui a nourri mes rêves quand j'avais entre 12 et 14 ans. La voisine avait un appartement semblable au nôtre, un appartement d'une pièce, mais elle vivait toute seule. Je me disais, pourvu qu'elle meure. Alors, si elle était morte, on aurait pu obtenir peut-être la location de cet appartement. Et alors là, c'était des châteaux en Espagne, c'était dans sa cuisine, on ferait une salle de bain. Oh, avoir une salle de bain, quel rêve! Et puis, on aurait deux pièces, il y en aurait une qui servirait pour la chambre à coucher, puis l'autre, ça serait l'espace de vie. Ça devenait tout à fait confortable. Bon, malheureusement ou heureusement pour cette pauvre dame, elle n'est pas décédée, et il a fallu trouver d'autres solutions.
D'autres solutions, et puis aussi, dans ce que vous montrez très bien, c'est la vie qui arrive dans l'appartement. J'aimais moi aussi cette machine grésillante, capricieuse, tour à tour grave et légère, tonitruante et amicale, toujours surprenante. Au milieu de chansonnettes et de publicités survenait ce que ma mère appelait le journal parlé. Et il ne fallait plus faire de bruit. Donc il y a la vie qui est là, qui passe.
Ah oui, la vie. Alors il y a eu ce petit poste, en effet, qui était vraiment... Je le revois encore, c'était une toute petite chose que maman chérissait parce qu'elle avait acheté cet appareil avec son jeune mari. Puis l'appareil est tombé vraiment, il était trop vieux. Et quand on en a acheté un autre, c'était autre chose. C'était vraiment une radio que maman avait achetée avec son salaire de vendeuse interprète. Et j'étais très fière de voir arriver cette radio. Et alors on écoutait toutes sortes de choses. Et j'ai raconté notamment l'épisode justement d'une émission qui s'appelait Les Maîtres du Mystère. Et alors il y a des gens de ma génération qui ont connu ça. C'était une adaptation, c'était une pièce policière remarquablement enjouée, et ça durait environ une heure, et il y avait un suspense. Alors c'était vers 9h du soir. Et je me souviens que mon frère et moi, nous étions tétanisés par l'arrivée de cet intermède théâtral avec un générique qui vous glaçait le sang dans les veines. Et je sais pas, c'est un enchantement. Et maman, qui n'aimait pas du tout les histoires policières, elle s'inclinait devant notre goût, notre mauvais goût, et elle trouvait que c'était bien, que ça rendait ses enfants heureux. Donc elle était contente.
Oui, alors pour les maîtres du mystère, Marie Cizin, voilà ce que vous écrivez. J'avais découvert une émission pseudo-littéraire qui diffusait le mardi une histoire policière ou fantastique sous forme théâtrale. Ça s'appelait Les Maîtres du Mystère. J'adorais ce moment, cette heure toujours trop courte. Je l'attendais toute la semaine avec impatience. Et il y a un peu, il y a pas mal de Madeleine de Proust hein, dans votre... Est-ce que les lectures de Proust, ça a compté pour vous? Mais il y a un peu cette notion du temps perdu, du temps recherché, du temps retrouvé. Je me demande aujourd'hui si j'avais été plus proche de la littérature qu'en ce temps-là, vous dites.
Alors, effectivement, cette espèce de goût pour la chose littéraire, encore que je ne veux pas dire du mal de cette émission, c'était Roger et Jean qui s'occupait de ça. Et j'ai le souvenir, tout d'un coup, ça me revient en vous répondant, que bien plus tard, j'étais en train de donner le bain à ma première fille, et j'écoutais la radio. Et tout d'un coup, j'ai entendu Roger et Jean. Et alors vraiment, tout d'un coup, un sentiment de reconnaissance, tout le merveilleux de cette période m'est revenu. Donc c'est vrai qu'à travers le temps, il y a une certaine fidélité... À la chose littéraire, c'est ça qui va s'étoffer, qui va se changer, mais qui est là.
Qui est là. Alors, je parlais tout à l'heure des repas qui reviennent, hein, qui rythment la journée, forcément. C'était comme une cérémonie, j'ignorais encore le mot, qui avait son ouverture, son acmé et son final. Presque toujours dramatique, sauf quand ma mère excédée y mettait un terme en murmurant que maintenant, ça suffisait. Donc, on dirait que votre mère donne le là, comme au théâtre d'ailleurs, pour que l'action arrive.
Oui, alors effectivement, c'était comme une représentation théâtrale. C'est vrai que tout d'un coup, je pense que ce livre au cinéma, ça serait bien. Et la scène du repas. Ouais. Avec l'intervention de ma mère qui est excédée, cette petite femme d'habitude très soumise, très timide, et qui là, tout d'un coup, se révolte contre l'autorité du maire, du mari, du père, et qui dit bon, maintenant ça suffit, on arrête hein, cette comédie, tu peux quitter la table. C'est vrai, c'est des choses qui me reviennent dans tout ça. Et d'ailleurs, dans toute cette histoire, il y a des épisodes qui sont des scènes de théâtre ou de cinéma. Il y a quelque chose que je me représente tout à fait encore fidèlement.
Avec des scènes de départ, des scènes de retour, des jeux d'ombre et de lumière aussi. On mesure cependant la montée du soir à l'imperceptible déclin du soleil et la disparition progressive des joueurs que depuis une fenêtre, une mère rameute pour le dîner. J'entends encore cette voix tombant d'un des immeubles rouges pour rappeler une intrépide sauteuse de marelle. À table, il est 20h, et jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans la rue que deux et bientôt plus qu'une petite fille à sautiller encore d'un carré à l'autre entre terre et ciel, enfer et paradis, et tu rentres chez toi un peu ivre de ce bonheur. Est-ce qu'écrire, c'est jouer à la marelle, justement?
D'une certaine façon, oui, il y a une progression, il y a un gain, il faut arriver au bout, il y a un jeu théâtral, il y a un jeu physique aussi dans la marelle, il y a l'exercice du corps, je me souviens de cette espèce de joie, en effet, de sauter comme il faut, de mettre les pieds comme il faut, de réussir. Et puis, toute la gaieté de cette rue, toute la poésie de cette rue. En revoyant cette scène des jeux dans la Villa Gagliardini, c'est vrai que c'est tout d'un coup toute une bouffée de poésie. Comme vous le disiez, avec l'ombre et la lumière, cette espèce de merveilleux du quotidien. C'est ça que j'ai essayé de mettre en évidence. Et je pense que les gens, entre guillemets, les lecteurs, ils ont tous des moments comme ça. Et c'est bien qu'on leur permette de revivre ça, de donner leur caractère et leur force à ces moments qui autrement seraient peut-être perdus, qui sait. Je trouve que toutes les vies finalement se ressemblent beaucoup plus qu'on ne croit et ont leur grandeur, encore une fois ce mot, mais c'est vrai que ça s'impose quelquefois.
Il y a un côté aussi fenêtre sur cour, il y a des parenthèses.
Oui, il y a un côté fenêtre sur cour, non seulement pour nous n'étions pas sur la rue, donc j'avais pas le spectacle de la rue, mais j'avais le spectacle de la cour et des toits et des fenêtres. Alors, les fenêtres, bon, Baudelaire l'a dit bien avant moi, mais c'est une merveille, les fenêtres, hein, on imagine tout derrière les vitres, etc. Et j'adorais, en effet, regarder le spectacle, notamment des fenêtres qui s'allument le soir. C'est une merveille toujours recommencée. C'est formidable.
Et puis aussi, on pourrait dire, est-ce que vous êtes retournée sur place?
Oui. Alors, je suis retournée bien longtemps plus tard. J'avais peur d'aller là. D'abord, je n'avais aucune espèce de raison raisonnable d'y aller. Quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai fait mes études, j'étais dans un tout autre quartier, puis j'avais pas le temps d'aller me promener. Je n'avais pas envie. Puis plus tard, j'ai enseigné en province et puis à l'étranger pendant des années. Et c'est quand j'ai écrit Éclat d'enfance, je me suis dit, il faut que je retourne pour préciser des lieux. Je voulais quand même remplacer les vacillements de ma mémoire. Faire ce qu'il fallait. Et ça a été une grande émotion. Et alors, ce que je raconte, notamment la métamorphose, éclat d'enfance, je pense que c'était, ça doit dater de 2009 ou 2007, 2009, donc pas mal de temps après, il y avait eu des transformations. Alors non seulement la Villa Gagliani s'était embourgeoisée, ça avait changé quand même pas mal, et puis le passage des Tourelles, qui était un endroit magique pour moi, que j'avais toujours connu déjà petite, c'était le et surtout quand j'allais au lycée, parce que je passais par là pour aller chercher l'autobus et puis rejoindre les beaux quartiers, je passais par le passage des Tourelles. Donc ce que je raconte de cette vision nouvelle des choses, et c'est vrai, l'anecdote que j'ai mise tout à fait à la fin, il y avait eu des démolitions, et alors le pan de mur où était notre appartement, et notamment la fenêtre de la cuisine, était normalement, depuis le passage des Tourelles, pas visible. Puis comme on avait bousculer les choses, démolir des baraques, etc. Tout d'un coup, j'ai vu la fenêtre de la cuisine. Et ça, c'était un coup.
Il y a le cinéma, hein, comme vous voulez.
Ça, c'est encore une autre découverte, presque aussi importante que la lecture. Une autre façon de voir le réel est capitale. Et ça, c'est aussi grâce à ma mère, qui avait été privée de cinéma assez longtemps, et qui, avec moi, a repris justement ces habitudes-là, et on allait d'une façon démesurée, folle, au cinéma. 2-3 fois par semaine, c'est quand même beaucoup pour un enfant, hein, et surtout pour des gens qui n'ont pas d'argent. Mais on le faisait, et c'était... il y a eu un moment où j'avais une culture cinématographique incroyable, bien plus qu'aujourd'hui. Maintenant, je sais plus rien, mais je suis restée très très attachée à tous ces films-là. C'est vraiment, pour moi, ça fait partie de ma vie, hein, réellement.
Alors, il y a aussi la tante Alice. Je voudrais qu'on en parle un peu tout de suite parce que c'est deux personnages de femmes totalement différentes. Enfin. Je dirais que le personnage de Tante Alice, voilà ce que vous écrivez, Marie Cizin, qu'elle était fatiguée et triste, Tante Alice, et comme elle était bonne, mais que ses mains étaient froides sur les miennes. Donc il y a d'un côté la chaleur, la désinvolture de votre mère, et puis le...
Tante Alice est un personnage, en effet, autour duquel on pourrait écrire tout un livre, parce que c'était une personnalité très forte aussi, et combien bénéfique. J'ai parlé d'elle dans d'autres livres, puisque c'est l'une des enfants de la saga de ceux que j'appelle les Cézenaux, dans la gouvernante suédoise et dans les sœurs aux yeux bleus. C'est la plus petite de ces enfants-là, dont la mère est morte 2 mois après sa naissance, et qui a eu le mérite extraordinaire de passer le brevet supérieur, alors que vraiment personne autour d'elle n'y songeait. Et c'est grâce à elle que les filles de cette famille, ma grand-mère et sa sœur, et plus tard ma maman enfant, ont survécu. Parce qu'elle a travaillé d'abord comme institutrice, et puis ensuite elle est devenue secrétaire de la compagnie des téléphones ou je ne sais quoi, dans une administration. Elle avait une très bonne situation, et elle a été toujours la voix de la raison dans cette maison folle, complètement déjantée. Elle tenait avec rigueur, justement. À l'alimentation, par exemple, maman se levait un peu égal, mais tante Alice veillait à ce que ça soit équilibré, qu'on soit bien nourri, et puis qu'on dorme le temps qu'il faut, etc. C'était la voix de la raison. Mais c'est vrai que elle était éclipsée par par sa nièce à tout point de vue. Elle avait été très belle, tante Alice, jeune. Mais moi, je voyais une dame vieille, maigre, sèche, noire. J'ai honte moi-même d'avoir été aussi injuste avec elle.
Alors oui, mais enfin vous-même, ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez le portrait d'une fille, d'une petite fille adulte, qui va gérer l'argent aussi. Parce que tante Alice, c'est peut-être un personnage masculin finalement, c'est peut-être, elle joue peut-être le, sans le savoir, l'homme de la famille quelque part. Enfin, ça, c'est très étrange, les rôles sont un petit peu, elle est un pilier comme ça, raisonnable. Et vous, enfant, vous parlez du vieux porte-monnaie, ce vieux porte-monnaie de cuir rose dont j'avais à présent la responsabilité, tout usé, ridé, noirci qu'il était devenu, comme j'en avais soin plus tard, pendant des années, à travers des déménagements, je l'ai gardé, caché au fond de mes trésors. Et je trouve ça assez émouvant. Vous aussi, vous faites un peu comme tante Alice parfois. Vous rattrapez, vous essayez de...
Alors, on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit, finalement, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas si longtemps, mais tu as été la tante Alice de la famille parce que j'étais effectivement la raison. D'abord, je savais compter. Maman ne comptait pas. Et je tenais les comptes de maman, etc. Et puis alors je la faisais économiser. J'avais du mal hein, parce qu'elle était très très dépensière. Elle tenait à juste titre à son aspect physique. Elle a été vraiment fort jolie. Donc les maquillages, avec le peu d'argent qu'elle avait, elle s'habillait quand même bien. Et j'ai été j'ai souffert de son déclin. Il y a eu un moment, la dernière petite fille avait 3 ans. Maman a changé, à ce moment-là, grossi. Jamais trop, mais suffisamment pour que ce soit moins bien. Elle était négligée. Et alors j'ai une photo où on la voit. C'était le jour de la communion de mon frère. Et alors... mon père est sur son 31, il est magnifique. Moi, je suis sur mon 31 aussi. Mon frère est dans une aube blanche. Et maman, détonne. Elle est habillée n'importe comment. On voit qu'elle est un peu trop grosse. Et puis, mal coiffée. Et ça, c'est... Et alors, justement, sur cette photo où elle est avec l'homme qu'elle a toujours aimé, mon père... Ça me fait mal de voir cette photo.
Oui. D'ailleurs, le rôle de la photo dans votre livre est très important. Il y a un ami. D'ailleurs, il y a plusieurs photos dans votre livre, Marie Cizin. Un ami très cher, voilà ce que vous écrivez. Un ami très cher qui vient de mourir m'a dit en regardant la photographie de l'école, c'est la photo de toi que je préfère et la plus ressemblante. Tu n'as pas changé, même si elle date de plus de 70 ans. C'est ton vrai toi, même si tu tentes parfois de le cacher ou de l'oublier. Tu es là tout entière, une enfant en revendication, en révolte contre une injustice que tu ne sais pas définir. Moi, j'appelle ça la conscience de classe. Donc, voilà, la photo, ces instants volés au temps, c'est là où Marie Cizin, vous captez aussi le tournant pour les êtres.
Ah bah d'abord, j'ai toujours adoré les photos, mais c'est vrai que ces photos ont été très très précieuses pour moi dans l'élaboration du livre. C'est les points de repère, c'est vraiment cet air de petite sauvageonne que j'ai sur cette photo. Je vous la montrerai. C'est incroyable, hein. Avec des vêtements donnés, parce que c'était au moment le plus crucial. On n'arrivait vraiment pas à joindre les deux bouts. Alors, il y avait des vêtements donnés avec une petite blouse un peu déchirée. Et puis les cheveux hirsutes qui tombent là jusqu'aux épaules. Puis un corps sauvage, voilà. Bon, ça me fait drôle. C'était, quand maman disait, au contraire, quand je lui faisais une remarque sur ceci ou cela, « Oh, tu m'ennuies, t'es une petite bourgeoise, finalement. »
Mais ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que votre récit, Marie Cizin, décrit votre mère face à son double, face à ses ombres. Il y a un glissement progressif entre l'équilibre d'une vie et son déséquilibre intérieur. On ne va pas dire la fin du livre, mais, oui. Mais c'est vrai, il y a cette lutte intérieure que vous décrivez.
Oui, évidemment, maman était aussi en lutte avec un aspect d'elle-même, c'est-à-dire que ses qualités devenaient des défauts, son mysticisme, son besoin d'absolu, sa révolte, portée à leur paroxysme, évidemment, ça n'allait plus. Et elle a été vraiment malade à plusieurs reprises. J'en ai parlé, j'ai pas insisté non plus, je voulais pas que ce soit... quand j'ai écrit La femme de l'Allemand, j'ai décrit un personnage qui n'est pas tout à fait ma mère, mais qui souffre de psychose maniaco-dépressive. J'ai décrit exactement les symptômes de cette maladie, beaucoup plus que je ne l'ai fait ici, où ce n'était pas le sujet.
Oui, c'est pas le sujet. Alors pour la photo, toujours, elle sourit en nous regardant, non, nous et pas l'objectif du photographe. Et des années plus tard, je suis émue de ce regard rêveur qui m'était de ma place invisible et dont je comprends aujourd'hui la tendresse, comme si elle s'interrogeait sur le devenir de toutes ces petites filles disparates qu'elle avait accompagnées et aimées des mois durant, que bientôt elle ne verrait plus. Voilà, c'est toujours une lecture de la photo qu'on retrouve, mais qui donne lieu à des plans séquences.
Oui, c'est vrai que cette institutrice photographiée dans sa classe est les bras croisés devant la poitrine et qui ne regarde pas l'objectif du photographe, mais les enfants qu'elle a devant elle, toutes ces petites filles. Et c'est là aussi, c'est un hommage que je rends à cette institutrice qui a joué un rôle capital pour moi, parce que c'était le moment où j'étais vraiment très bonne élève. Et alors, elle m'a donné une confiance en moi inaltérable. C'était alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas, c'était pas ça. Et cette femme, elle avait l'amour de sa fonction et des enfants qu'elle avait devant elle, quels qu'ils soient.
Oui, et on a l'impression que l'école, c'est votre seconde vie. Vous dites, moi, en fait, j'adorais ces petites histoires de baignoires à remplir ou à vider dans un temps donné, de trains qui partent à telle heure, roulent à telle vitesse et dont on attend l'heure d'arrivée. C'était pour moi de vrais romans. On sent, oui, que l'école, voilà, c'est votre chance.
Oui, et puis j'en étais pas absolument consciente, mais je vivais cette chance, c'est-à-dire ce bonheur au quotidien, en effet, d'apprendre des choses qui m'amusaient beaucoup, qui m'intéressaient, et puis d'être un peu en vedette, hein, je veux dire, il y avait quelque chose que je n'avais pas connu jusque-là. Maman m'adorait, mais elle a bien fait d'ailleurs de ne pas me mettre en vedette du tout. Elle aimait ses trois enfants de la même façon et j'étais pas en vedette. J'étais au contraire de la part de mon père complètement reléguée. Nous parlons pas de l'école des bonnes sœurs où c'était atroce. Et alors là, tout d'un coup, il y avait une reconnaissance. Et je trouve merveilleux le rôle de ces instituteurs qui arrivent tout d'un coup à dégager la personnalité d'un enfant. Quand j'ai été professeur, parce que j'ai été longtemps quand même professeur, presque 40 ans, le premier souci que j'avais, c'était ça. C'était de trouver l'élève qui avait besoin d'un coup de pouce, qui avait besoin qu'on lui dise qui elle était, puis que ça marche, etc.
On va faire une petite pause musicale, Marie Cizin.
Thank you.
Marie Cizin, nous poursuivons notre conversation autour de votre livre 10 Villa Cagliardini, je vais y arriver, qui vient de paraître aux éditions Arléa. Alors c'est vrai, je parlais de l'école, vous-même vous avez été enseignante, vous aimez cette faculté d'éveil, j'allais dire, de faire naître quelqu'un à sa vie intérieure. On sent ça, il y a plein de naissances dans votre livre, hein, vraiment dans ce récit. Vous écrivez « Nous nous regardions les unes les autres avec étonnement, c'était bien nous, mais nous n'étions déjà plus les mêmes. C'était comme si on avait collé au front des étiquettes de couleurs différentes. » Et puis, l'école, c'est l'école de la vie. Et vous découvrez la différence de classe, hein, que vous avez, qui est très, c'est quelque chose qui est très très présent dans votre livre. Que faisais-je là? Je m'ennuyais, je restais le temps qu'il me sembla correct de rester, puis je disparus, je repris mon autobus, je n'étais pas de ce monde. Et ce je n'étais pas de ce monde concerne aussi votre mère, qui n'est pas.
Oui, bien sûr. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si j'avais présent à l'esprit le cas de ma mère, mais sans doute. Hein, mais il est certain que dans mes premiers contacts avec mes congénères au lycée, comme j'avais été introduite par chance, j'avais été invitée, je travaillais bien, donc il y avait des filles de cette classe qui trouvaient intéressant de m'inviter chez elles, mais il y avait un blocage pour moi à comprendre que je n'étais pas de ce monde, que je détonnais. Il y avait quelque chose et là il y a des comptes à rendre. Il y a quelque chose qui est resté. Par chance, j'ai trouvé à travers ces années de lycée, j'ai quand même trouvé d'autres amitiés, mais la conscience de classe que j'avais remarquez déjà, dès l'examen d'entrée en sixième, tout à l'heure on en parlait, les élèves qui allaient, qui iraient au lycée, et celles qui n'y iraient pas,
ouais.
Il y avait une différence, il y avait un marquage, et ça, déjà j'étais sensible, je les regardais avec une espèce de surprise, comme si on leur... Celle qui n'irait pas au lycée, elle portait une étiquette sur le front.
Oui, il y a ça aussi, Marie Cizin. Par exemple, ces petites découvertes, vous écrivez, il y en a eu d'autres. Certaines filles parlaient d'un ton dégagé d'un week-end à la campagne avec leurs parents, de vacances à la boule, et puis de leçons de piano, de cours de danse, de tennis. Moi, je n'avais cours de rien et je me taisais. Mais c'est l'arte povera chez vous. Et l'art du peu, bah, finalement, c'est des petits bouts de bonheur que vous assemblez.
Oui. Effectivement, je pense que il y a toujours un moyen de s'en sortir et petit à petit, j'avais une espèce de capital de choses que j'aimais et qui remplaçaient finalement les avantages que les autres semblaient avoir sur moi.
Et puis, à un moment donné, vous partez en Bretagne et là, il y a c'est très bien parce qu'il y a comme une, on parlait de photos tout à l'heure, et là, c'est comme une mise à distance de l'appartement, mise à distance de votre mère, et vous recevez, il y a une grande émotion à recevoir, voir l'écriture manuscrite de votre mère. Chaque lettre de maman écrite de sa haute écriture bleue et penchée, tout de suite reconnue, dans le paquet d'enveloppes que tenait à la main la monitrice au moment de la distribution du courrier, me poignait d'émotion. C'était un peu de l'appartement qui m'arrivait.
Oui, alors ces colonies de vacances, en effet, ça avait quelque chose d'étonnant. D'abord, dépaysement complet, et puis séparation de ce moule, de cette espèce de gants qui était la mienne. Et tout d'un coup, je voyais les choses avec distance, mais avec d'autant plus de tendresse. Alors, tout d'un coup, je repense à la citation de Marguerite Duras que vous évoquiez. Quand on est petit, la maison, on ne la voit pas. C'est après qu'on la découvre. Et là, déjà, dans cette séparation des vacances, de la colonie de vacances, quand je recevais une lettre de maman, Oh, c'était comme une décharge, en effet, d'émotions à revoir, à sentir l'atmosphère de la maison qui revenait avec l'écriture de maman. C'est quelque chose qui vous tient au cœur pour toujours.
Et aussi la voix aimée, c'est un peu aussi ça votre récit, Marie Cizin. Comment restituer une voix en littérature? C'était l'image de l'appartement de la Villa Cargadini qui me revenait toute puissante avec des bribes de la voix de maman. Donc des bribes de la voix de maman, donc ces échos un peu...
Vous voyez, j'avais oublié ce passage, mais ma mère avait une voix très particulière. Qui était belle, qui s'exaltait facilement quand elle avait fait de l'italien et quand elle était un peu trop exaltée, elle récitait en effet le Dante. Ça c'était quelque chose qui me faisait peur, mais qui en même temps me charmait. Elle chantait aussi, ça, je crois que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Elle avait une très jolie voix et elle savait par cœur les couplets des chansons d'Aznavour, etc., d'Edith Piaf surtout. Bien sûr, elle savait ça tout par cœur. Et alors, mon père ne supportait pas qu'elle chante parce que je pense qu'il craignait qu'elle ne s'exalte. Il avait raison d'une certaine façon, mais la voix de ma mère chantant, c'est quelque chose en effet qui restait dans ma mémoire. Et même parlant, quand vous dites des bribes de sa voix, oui, même pour les mots les plus simples, elle avait une voix qui, son écriture, son graphisme ressemblait à sa voix, cette haute écriture penchée.
Et puis, la découverte des personnages de romans. C'était cette fin d'été, écrivez-vous, j'ai trouvé au Monoprix de l'avenue Gambetta une édition bon marché de La Chartreuse de Parme. J'avais vu l'année précédente le film qui en avait été adapté. C'était Gérard Philippe qui interprétait Fabrice Eldongo. Je suis transportée par ma lecture. Donc voilà, il y a à la fois ces bribes de mélancolie aussi, hein, de doute, de la vie tout simplement. Et puis il y a la lecture qui est là. Et l'amitié. L'amitié, j'ai 15 ans, elle un peu plus de 13, elle apprécie ma maturité. Moi, je sens en elle une force naturelle, instinctive, qui me rassure. C'est pour cela que je l'appelle la bergère. Vous avez une amie qui... Ce rôle de l'amitié est très important, on sent dans
Oui, oui, je pense que c'était... ça corrigeait l'effroi que j'avais pu ressentir à la différence de classe avec d'autres. Là, il y avait... Une communauté de difficultés de la vie, parce que c'était des gens qui étaient très peu argentés. Et alors découvrir l'amitié au milieu de tout ça, c'est une amitié d'ailleurs qui a résisté au temps. On est toujours amis. Et alors, c'est amusant parce que elle a fait des études de droit brillantes, elle est devenue magistrat, donc elle a été juge d'instruction, elle a fini présidente du tribunal de Cahors, enfin vraiment. Mais cette amitié a perduré, et alors j'attends maintenant qu'elle ait, j'espère qu'elle l'a lu maintenant, mon livre. Elle était en plein déménagement, je ne sais pas si elle l'a lu, parce que ça va être toute une émotion pour elle de retrouver tout ça.
Et puis, alors, le livre se termine, et à un moment donné, on quitte l'appartement. Hein, je dirais presque votre livre, c'est l'histoire d'une seconde naissance, d'une première mort, et puis après d'une autre naissance. On quitte, l'appartement n'existe presque plus, je suis déjà en partance, écrivez-vous. Et nos appartements ne sont plus pour nous que des tremplins pour nous élancer plus loin, ailleurs, là où sera notre vraie vie. Donc, c'est le lieu du départ, c'est le lieu de la construction de soi. Ça se termine comme ça, mais ça se termine sans se terminer, puisque finalement la vie reprend. Le moment où vous terminez un livre, Marie-Suzanne, comment ça?
Alors ça, c'est une question. Effectivement, c'est un déménagement. Il y a une tristesse à quitter un livre sur lequel on a travaillé, dans lequel on a vécu. Et alors, c'est très curieux. Votre remarque, elle est tout à fait intéressante parce que, immédiatement, Il y a le besoin d'écrire autre chose. Mais c'est terrible. C'était, et alors, j'irais même jusque-là, c'est que... Bon, j'ai adoré écrire cette histoire, Villa Gagliardini. Et alors, au fur et à mesure que ça se terminait, bon, je l'aimais, il y avait quelque chose déjà qui poussait. C'est comme une dent qui vous arrive tout d'un coup derrière. Bon, et on se dit, elle perce, elle va arriver. Et puis, l'envie d'écrire l'autre histoire. Et alors là, je trichais parce que j'étais dans les corrections de la première. Je disais, il faut quand même que je sois sérieuse, que je corrige mon premier livre. Oh, oui, mais j'avais envie d'écrire l'autre. Et alors je m'accordais une petite récréation. Je disais, vite, j'écris une page de l'autre. Allez, une page, rien qu'une page. Et puis, on retourne faire nos corrections. Voilà. Mais ouais. C'est vrai qu'il y avait ça, parce que la vie, c'est ça, c'est ce mouvement qui vous prend. C'est exactement... Et alors, le goût des appartements et des changements, je ne vous dirai pas le nombre de fois que j'ai déménagé, le nombre d'appartements où j'ai vécu, c'est fou. D'une part, mon métier m'a amené à changer, mais il y avait ce goût terrible de recommencer une vie, de refaire, d'agrandir. Hein, comme pour le Villa Gagliardini, l'appartement de la voisine, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose d'autre. Puis arranger l'appartement, lui donner une figure, comment dire, c'est comme de faire un tableau.
Et je refermais la fenêtre, je partis en claquant la porte derrière moi et j'eus le sentiment que je laissais là, dans l'appartement, un monde, notre monde, le souvenir inoubliable de ce que nous avions été dans ce petit espace, les uns pour les autres, et que plus jamais nous ne retrouverions quelque chose qui était au-delà de la maladie et de la mort, au-delà de la vie à venir, et qui nous soudait à jamais. Pour qui, pourquoi écrivez-vous, Marie Cizin? Pour retrouver ce qui nous soude à jamais? Pour retrouver ces instants de...
Oui, sans doute que ça, ce serait pour moi. Mais avec l'espoir aussi que ça touche d'autres gens. Et c'est ce que je trouve, là, vraiment. Quand des gens m'écrivent, me disent « Mais j'ai cru que je retrouvais mon histoire, etc. » Ça, c'est une... Ça fait vraiment plaisir. Et je crois que j'y suis arrivée parce que c'est tellement... Parce que c'est vrai. Et ces détails vrais, évidemment, ils touchent la vie des gens. Plus que... Mais je m'aperçois que j'ai toujours écrit des romans où je dis des choses vraies. Il n'y en a aucun qui soit de fiction pure. Aucun. Ça, c'est terrible, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Quelles sont vos admirations de les...
Alors, les admirations. Bon, en tête de tout, Henry James. Henry James, bon, en tête de tout, vraiment. Parce que, je ne sais pas s'il a jamais été peintre, Henry James, mais en tout cas, on sent qu'il a un regard de peintre et de peintre de l'âme. Donc, j'adore. Proust, pareil. Alors, Proust, vraiment, je peux le lire beaucoup plus que je connais mieux qu'Henry James, parce que Proust, je l'ai lu, relu. Bon, c'est une lecture... fraternelle. Moi, lire une page de Proust, je ne m'en lasse jamais. Il me fait rire et il me fait pleurer en même temps. Il y a des choses tellement violentes dans la tristesse et en même temps si drôles. C'est-à-dire que c'est les deux mêlés, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire ce mélange de la vie. Moi, je m'avance toute petite avec mon livre, mais... J'ai essayé que ce soit un livre en même temps amusant, c'est-à-dire et pitoyable. C'est-à-dire que quand je raconte, par exemple, la tentative vaine de ces enfants que mon frère et moi, nous étions, quand on a voulu retapisser les murs,
ouais, ça, c'est vrai.
Écoute, c'était une entreprise démente, hein, mais en même temps comique. Monter sur des échafaudages invraisemblables avec la colle aux mains partout, la giclure à travers toute la pièce, etc. Et en même temps touchante. Touchante.
En même temps symbolique, puisque le mur c'est comme une seconde peau, il y a la cicatrice.
Oui. Oui, c'est vrai. Il y avait vraiment le besoin de faire une deuxième peau et en même temps la détresse de quitter cette peau. C'est ça. Hein, c'est...
Le titre du livre, Marie Cizin, est-ce qu'il arrive avant l'écriture, en cours d'écriture, après ?
Alors, je voulais d'abord écrire quelque chose sur l'appartement. Pour moi, le titre, c'était l'appartement. Je trouvais ça beau, je trouvais ça bien. Symbolique de plein de choses, etc. Et puis, évidemment, j'ai été regarder sur Google, et puis je me suis aperçue qu'il y avait des pièces de théâtre, qu'il y avait ceci, cela. Bon, ça marche pas. Et alors, après, j'ai pensé à Villa Gagliardini. Et puis, non, parce qu'on va croire qu'il s'agit d'une villa. Et c'est tout sauf une villa. Donc, on va mettre le numéro devant. Comme ça, on saura qu'il s'agit d'une rue qui s'appelle comme ça. Et puis, j'ai trouvé que ce nom bizarre de Gagliardini, c'était une accroche, c'était quelque chose qui éveille la curiosité. Mmh. Et je me suis dit, bah, c'est bon. Toute la poésie baroque de cette histoire, elle est dans le titre.
Mmh. C'est tout à fait ça, on rêve, on ouvre, c'est la première porte, le titre de votre livre.
Peut-être. Je me demande toujours la réaction des... Vous savez, il y a une chose que j'adore, c'est être dans une librairie et regarder le regard des anonymes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils voient mon livre? Est-ce qu'ils le voient? Et quelle est leur pensée quand ils voient des titres? Quel est celui qu'ils vont choisir? Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et moi, je vois mes propres réactions, en effet, quand je regarde un livre. C'est vrai que la couverture et le titre, quand ça ne fait qu'un, ça, c'est bon. Mais c'est tout un art, hein. C'est quelque chose... Je crois que dans une autre vie, j'aurais pu être éditrice, j'aurais bien aimé.
Quelle lectrice êtes-vous, Marie Cizin? Est-ce que, à quoi ressemblent vos bibliothèques? Est-ce que vous en avez plusieurs?
Je vais vous montrer. Mais écoutez, c'est très difficile de ranger une bibliothèque. Il y a une partie classique, puis il y a une partie contemporaine. Il y a les étrangers qui sont aussi à part. Et puis il y a les livres d'art qui sont aussi à part. Partout il y a là on est du côté des livres d'art, mais il y en a d'autres, hein. Tout ça c'est des livres d'art. Bon, ici il y a les livres que je viens de lire et qui sont encore en vrac, et puis il y a des livres aussi qui sont des livres très très chers, chéris, qui sont près de mon lit, que j'ai toujours. Alors je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est quand même presque... Ça semble peu croyable. Justement, dans mon roman, je parle à un moment donné du livre dans lequel je cachais les économies que j'arrivais à faire pour maman. C'était Pascal. C'était une vieille édition des Pensées. Bon, ben, j'ai toujours Pascal. Pascal, c'est mon livre.
Mmh. Est-ce que vous avez... comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez à la main, directement sur l'ordinateur, sur des carnets, sur des petits bouts de... Est-ce que ça vient de manière éparse? Est-ce que vous êtes concentré, que ça vient d'un seul tenant?
Alors d'abord, j'ai toujours un carnet sur lequel je note les idées qui viennent comme ça. Bon. Et puis, après, c'est directement sur l'ordinateur, c'est-à-dire telle idée qui m'est venue, je raconte... l'épisode, en effet, du roman qui a trait. Et puis, je laisse ça. Et puis après, je collationne toutes les pages. Je me dis, voyons, dans quel ordre est-ce qu'on va faire ça? Ça vient comme ça. Mais c'est d'abord par le détail. Mm-hmm. Mais grâce à chacun de mes livres a un carnet... En général, je choisis d'ailleurs un joli carnet, bien épais, pour que j'ai le temps de tout mettre dedans.
Donc il y a un travail de reconstruction?
Oui, il y a un travail de reconstruction. J'en suis là maintenant pour le prochain. Il est presque avenu, il est presque fait, mais il y a encore des hésitations. Il y a encore des questions d'ordre à adopter. Alors je sais que ça m'est arrivé de mettre toutes les feuilles par terre. Toutes les feuilles par terre, et puis de jouer à la marelle, après ça me dit, voilà, allez, ça, ça et ça, hop là, là. Et puis arriver enfin au paradis, quand on a trouvé la disposition adéquate. Mmh. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, ça. Mmh.
Est-ce que vous pensez à votre lecteur quand vous écrivez? Est-ce que vous pensez à la... Oui, ou à votre lectrice, qu'importe, mais est-ce que vous pensez à celui ou celle qui va vous lire?
Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense d'abord à l'émotion qui est la mienne et à la rendre aussi juste que possible. C'est-à-dire, et ça, en réentendant le texte, en corrigeant. Et j'aime beaucoup ce travail-là, ce travail de perfectionnement. Quand je faisais, d'abord, je note, par exemple, une scène qui me dit, ah oui, il faut que j'écrive ça. J'écris la page, mais cette page, elle va être, je la projette sur l'ordinateur, et puis je relis, et puis je recommence, et puis je refais. Et je ne m'arrête que quand j'ai trouvé vraiment, je crois que je ne peux pas aller plus loin. Mais j'ai quelquefois des surprises. Ça m'arrive de voir le livre fini et de me dire, tiens, mais j'aurais dû dire ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce mot-là avant? Bon.
Est-ce que vous relisez les livres déjà publiés?
Certains, oui, avec plaisir, je dois dire avec plaisir, surtout quand je dois celui-ci, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de il est tellement proche de moi que je le sais par cœur, hein, ben celui-là. Mais ça m'est arrivé de relire La gouvernante suédoise, par exemple. Parce que tel lecteur m'avait dit, oh, j'ai tellement aimé ce passage, etc. Ben, je me dis, je vais le relire. Et puis là, il y a un intérêt aussi de retrouver cette histoire qui m'a hanté. L'histoire de toute la période suédoise, c'est tout de même l'alpha de notre existence. C'est vraiment c'est un truc prodigieux. Et alors, on parlait de photos tout à l'heure, toutes ces photos anciennes, mais c'est prodigieux. C'est prodigieux. C'était toute une époque, tout un style de vie aussi. Alors c'était pour moi, petite fille, quand Tante Alice racontait, en effet, les souvenirs de ces fastes d'antan, et que nous, on était en train de compter chaque sou misérablement, c'était incroyable. Et puis alors surtout, moi, avec mes soucis d'ameublement, cette constante, en effet, de trouver un moyen, de trouver... Oh là là, je m'extasiais quand je voyais des photos, justement, d'intérieur. Oui, ça arrêtait bien.
Donc c'est surtout visuel, la musique aussi a son rôle à jouer.
Malheureusement, non. La musique, j'ai découvert la musique très tardivement. Maman aurait pu être... Elle pris des leçons de violon quand elle était enfant, grâce à Tante Alice avait tenu à ce qu'elle ait des leçons de violon. Mais elle avait gardé son violon, mais c'était pas ça. Elle revenait à son violon quand elle était un peu exaltée, et le résultat n'était pas du tout probant pour mes oreilles.
Est-ce que le prochain projet, roman?
Non. Malheureusement, c'est toujours pas... Non, c'est vraiment pas du roman. C'est...
Un récit.
C'est un... Je sais pas.
Ah.
Je ne sais pas. C'est un roman sur... c'est un roman d'amour. J'ai dit c'est un roman d'amour. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire de mort.
Ah.
Aussi. Donc c'est un livre sur le souvenir, sur la permanence du souvenir et l'idée de comment dire l'indissolubilité du sentiment, la victoire de la vie sur la mort finalement.
C'est le plus important, Marie-Cisa.
Peut-être, oui.
Merci à vous.
Merci vraiment beaucoup à vous.
Voilà, l'émission consacrée à Marie-Cisa se termine. Je vous encourage vivement à la télécharger et à la réécouter sur le site de Radio Libertaire. Chemin faisant, n'hésitez pas à aller en librairie et à compléter cette conversation littéraire devant un bon livre. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
La nourriture et puis finalement s'en fout. L'habitant du château ne connaît plus la pièce où les autres s'empressent de gaspiller de l'eau. Des toiles d'araignée décorent la baignoire et les cafards vont boire au lavabo rouillé. Se lave plus beaucoup, serviettes lourdes et savons fourbes ont rendu la douche tabou. La L'habitant du château a condamné la chambre où des ombres trop tendres ont troublé son repos. Les armoires fermées retiennent leurs fantômes et meurent les arômes dans le lit déserté. Il ne dort plus beaucoup, juste somnole, alors s'affole au réveil sa mémoire floue. Mais dans le ventre chaud de sa bibliothèque, enroulé bien au sec, l'habitant du château dévide tout le fil de son imaginaire. Il voit grande lumière et son rêve est fertile. S'il ne bouge plus beaucoup, quelle importance, car c'est l'essence de sa vie qui le tient debout. S'il ne vit plus beaucoup, en apparence, faites confiance, une flamme brûle en dessous. L'habitant du château ne lâchera pas de
à l'heure où les étoiles tombent, il creuse la sienne, plus pâle qu'une ombre qui boit de la verveine. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Depuis qu'il a vu le jour, il a trimardé sur terre, mais il a pas eu plus d'amour qu'un sac de pommes de terre. Il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Ses vieux l'ont pas reconnu, alors il est allé se faire voir par le monde et ses rues. Il a mangé son pain noir, on peut pas tard, ouais mais qu'on a rien eu. Et nul n'a répondu quand il voulait savoir, et son cœur s'est fendu d'essuyer tant de déboires. Il est tombé des nues, il s'est même fait trottoir, puis porté disparu par des gens trop bavards. Chacun vaut son voisin, sauf quand c'est un vaurien. Pavé et breloque, il a le scorbut à l'âme et son cœur soliloque. Sans but le pauvre diable, il a la tête tordue et sauré d'une oreille. C'est pas d'avoir trop bu, c'est d'être né bouteille. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. La mer, c'est elle qui le hante, dans son cœur une arrière, ses ondes écume qui chantent, dans le miroir aux étoiles, dans l'océan sa planque, l'alouette en cavale, il a jeté son ancre. Il chante, mais c'est bientôt la mer qui vient couvrir sa plainte au creux de sa dernière bière. Il chante, son chant de vagabond, c'est maintenant la mer qui roule sa chanson, qui roule sa chanson.
Pleine, quand le cœur sera comme une cage, quand trônant sur mon pays, bêtise sera reine, je ferai mes bagages et mon